Bonjour tout le monde. Bon mardi matin. Nous allons passer la première heure à discuter de la situation dans les hôpitaux. Je pense que c'est important de revenir là-dessus. Vous avez entendu un peu dans l'émission de mon collègue Paul Arcand, certains intervenants confirmer ce délestage. On est effectivement en mode délestage maintenant dans les hôpitaux. Déjà remarqué la semaine dernière, c'était un peu à prévoir. Il y avait entre autres plusieurs urgences, deux hôpitaux entre autres de la Rive-Sud, qui prévoyait déborder, qui débordait déjà là, quand on est à 197 % 137 % dans les taux d'occupation, 189 %. Vous comprenez qu'on ne peut pas continuer comme ça. Et donc, ce qu'on disait déjà il y a à peu près une semaine, c'est que si la tendance se maintenait, c'est clair que les hôpitaux allaient devoir prioriser des cas, et ce qui signifiait délester certaines interventions chirurgicales. Bien, on est là ce matin, on apprend donc qu'à peu près 50 % des cas de chirurgie et des rendez-vous sont obligés d'être annulés parce qu'on n'y arrive pas. On va faire le point donc là-dessus avec plusieurs invités. On va tout de suite parler à la présidente du syndicat des travailleuses et travailleurs du 6 de Laval, Marjolaine Aubé. Bonjour, Madame Aubé.
Bonjour.
D'ailleurs, au moment où on vous a téléphoné là, ce matin, il y a à peu près une demi-heure là, pour confirmer cette entrevue, vous entendiez le code 33 à la Cité de la Santé. C'est un peu le code délestage, c'est bien ça?
Bien, le code 33, c'est un appel qui est fait aux médecins d'aller signer des congés. Donc, ça veut dire que l'hôpital implose, donc il faut libérer des lits. Ça arrive quand même assez souvent, mais là, ce code 33-là, il est directement lié à ce qu'on lit dans le journal ce matin, la nouvelle directive qui a été mise par le ministère à tous les hôpitaux du Québec. Ils disent qu'ils doivent rendre les deux tiers des lits qui sont ciblés rouges, ils doivent être libres d'ici vendredi. Ensuite, rendre disponibles 100 % des lits qui sont ciblés rouges d'ici le 17 décembre prochain, puis de rendre disponibles les surcapacités calculées à 150 % aussi, et la coupure, comme vous l'avez annoncé tantôt, de la moitié des salles d'opération. Donc, c'est directement lié à ça, là. Donc, on commence à vider l'hôpital.
Est-ce qu'on va y arriver, là? C'est ça? Est-ce que je vous entends, là, avec effectivement, là, c'est la commande qui a été
oui,
faite, là? C'est
exactement
la commande aux hôpitaux par Québec. Est-ce qu'on est capable de rendre disponible 100 % des lits hospitaliers ciblés COVID-19 d'ici le 17?
Écoutez, nous, là, la différence qu'il y a avec la première vague, c'est que quand on parle de délestage, il y a deux sortes de délestage. Il y a le délestage des services où on coupe, mais il y a le délestage du personnel qu'on déploie ailleurs. La première vague, on nous a envoyé, nous, à Laval, partout, dans des résidences personnes âgées, des CHSLD privés, partout. Même, ils ne savaient même plus où les employés étaient. Nous, au syndicat, on ne pouvait même pas savoir où étaient nos gens. Donc, ça fait un bordel vraiment royal. Donc, cette fois-ci, ce qu'ils ont pris comme décision, c'est qu'il ne faisait plus un de zone rouge dans les CHSLD parce qu'on a vu qu'est-ce que ça a donné, hein, c'est que tout le monde s'infectait. Deux, on nous envoie plus nécessairement non plus dans les résidences personnes âgées quand il y a des éclosions. C'est qu'on prend la clientèle qui est atteinte et on l'amène à l'aréna quartier s'ils n'ont pas besoin de soins hospitaliers. Par contre, j'ai une capacité de 50 personnes à l'aréna quartier. Est-ce que ça va être suffisant? Et le problème qu'on rencontre présentement ici à la Cité de la Santé, c'est que c'est les lits verts qu'on n'a pas et c'est la clientèle aussi qui a des troubles mentaux, que ça l'explose les cas. On n'a plus de place pour les accepter, mais on n'a pas le choix de les accepter pareil.
Mais là,
donc,
oui,
là, avec la nouvelle commande, de l'idée, on a peur au congé précoce, on s'entend, là.
Déjà que vous avez... Oui, exactement. Sur l'aréna quartier à Laval, là,
oui,
c'est un centre d'hébergement temporaire, c'est ça, pour les patients
oui,
COVID
qui n'ont pas besoin d'être hospitalisés.
OK.
J'ai l'aréna quartier et on avait une zone rouge, j'en ai parlé la semaine passée, on avait une zone rouge pour les patients COVID qui proviennent des unités prothétiques, soit du secteur privé ou des nôtres. Donc, ils ont pris un centre de jour, c'est une entrée à part, mais ils ont été obligés de le fermer en catastrophe la semaine passée parce que tout le monde s'auto-contaminait et ils ne comprenaient pas pourquoi. Ils ont même envoyé la coach PCI voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pourquoi tout le monde est contaminé dans les employés. Et là, ils ont décidé d'envoyer ces patients-là à l'aréna quartier, alors qu'ils nous avaient dit qu'ils ne pourraient jamais envoyer cette clientèle-là là-bas. Parce que quand tu proviens d'une unité prothétique, c'est des gens qui ont un gros problème d'errance, qui ne comprennent pas les consignes. Donc, c'est quand même assez vaste, un aréna. Bon, là, supposément qu'ils ont arrangé les lieux physiques. On devait visiter. On n'a pas visité. Les gens sont supposés d'être formés de cette clientèle-là. On sait que là, ils ne sont pas formés encore, mais ils doivent s'en occuper. Donc là, on en a peut-être quoi, une vingtaine à l'aréna, donc il reste peut-être 30 places disponibles. Donc, si on sort, s'il faut vider les hôpitaux, ben, je ne sais pas où est-ce qu'on va les envoyer, sincèrement.
Mais là, est-ce que vous êtes en train de me dire que, là, je reste accroché sur le fameux code 33, là, parce qu'évidemment, c'est une image forte, là. Quand on dit aux médecins, bon, ben là, regardez vos patients, là, puis essayez de sortir là, ceux là, qui sont pas obligés d'être à l'hôpital, ça veut dire que, est-ce qu'en ce moment, il y a des Québécois qui sont à l'hôpital, qui normalement, sans COVID, pourraient rester, et dont les soins, d'ailleurs, nécessiteraient qu'ils soient donnés en milieu hospitalier, mais qu'on va peut-être amener soit à l'aréna quartier Laval ou soit qu'on
ou
va
à
dire,
domicile.
Ou chez eux, qu'on va renvoyer
à domicile.
Chez eux.
Ouais. Alors moi, je m'attends à ce que les équipes du maintien à domicile soient extrêmement sollicitées. Donc, si on les fait partir un peu plus prématurés, ça veut dire qu'ils nécessitent encore des soins. Donc, ça, c'est le maintien à domicile, c'est nos ASSF qui vont à domicile, qui vont devoir prendre le relais. Et puis, avec une commande comme celle-là, on est mardi, puis il faut que les deux tiers des lits ciblés COVID soient vides, puis qu'au
17, vendredi,
soit 100 % puis 100 % d'ici au 17.
Ouais.
Et là, je comprends que le maintien à domicile, là, il va falloir que ça roule, là, parce qu'il faut les organiser, les soins. C'est beau de dire qu'on va envoyer des gens en prendre soin, mais encore faut-il organiser les services. Donc oui, c'est inquiétant. C'est extrêmement court. Moi,
mais je peux même pas croire, Mme Aubé, là, que on va dire à des gens malades qui devraient être soignés à l'hôpital, écoutez, à cause des patients COVID, vous allez être obligés de retourner chez vous.
Bien là, ce qu'ils parlent, c'est de rendre disponibles les lits COVID. Donc, c'est des gens qui sont atteints du COVID qu'on doit délester. Est-ce qu'ils vont en avoir peut-être à l'aréna? Je ne le sais pas. Écoutez, de faire ça aussi vite, tu sais, le code 33, on vit avec ça depuis tout le temps. Moi, ça fait 34 ans que je travaille ici, là, à la Cité de la Santé, et c'est pas nouveau, là. Sauf que là, avec les directives qui sont émises présentement, il faut agir dans une vitesse fulgurante, c'est là qu'est l'inquiétude. C'est la vitesse auquel on nous demande de le faire. Parce que le code 33 existe depuis toujours.
Oui, je comprends bien, mais c'était pas la norme. Alors que là, on comprend l'urgence.
Oui, définitivement.
Oui. Auriez-vous envie de parler aux gens qui nous écoutent, puis qui sont en train de se planifier des petites fins de semaine à 18, là, dans un restaurant de Saint-Sauveur, comme on entendait ce matin, là? Un restaurateur qui racontait qu'il y avait des groupes qui appelaient, il y a du monde qui se loue des chalets à la gang, il y en a, là, ça leur passe 6 pieds au-dessus de la tête, pendant qu'il y en a qui risquent d'aller 6 pieds sous terre. Il y a vraiment quelque chose qui rend mauvais en ce moment. Là. On vous écoute, essayez de gérer ça, là, puis c'est une situation d'urgence. Je comprends pas qu'il y ait des gens qui comprennent pas.
Nous, on a les deux pieds dedans, hein, pour être polis, là, depuis le premier jour. Donc, nous, c'est un acquis. On vit avec ça. Moi, mes collègues du syndicat, pour pouvoir continuer à faire du syndicat de jour, pour pas se faire couper les libérations, parce qu'on ne pouvait pas laisser tomber notre monde, ont accepté pendant la première vague de faire du temps supplémentaire le soir pour aller donner un coup de main. Fait que la plupart faisaient des doubles par jour. J'en ai une collègue, elle était attitrée dans les résidences pour personnes âgées qui étaient privées, pour pas nommer une Val-des-Arbes, exemple. Ben, elle est arrivée là avec sa collègue, mais il n'y avait personne. Il n'y en avait plus d'employés. Il n'y avait personne. Puis il constatait que les patients qui étaient là, ça faisait des jours qu'ils n'avaient pas été lavés, hydratés. Et mais moi, j'ai négocié. Mais pour vous donner une image forte, là, pour que le monde comprenne, non, quand une présidente de syndicat négocie des fourgons frigorifiés pour sortir les personnes décédées des chambres à deux et que l'autre est vivant, ben, je pense que ça fait une image assez claire de ce qui se passe.
Avez-vous déjà vécu quelque chose pareil?
Non. Non. On était prêts. J'étais là à l'époque de la H1N1. On s'était préparés. On était prêts. On n'a pas eu ce qu'on s'attendait d'avoir. Tant mieux. Par contre, à cette époque-là, tout le monde avait eu un fit test. Tout le monde savait quelle sorte de masque N95 il devait porter. Tout le monde, le personnel administratif, l'entretien ménager, cuisine, tout le monde. Mais là, cette fois-ci, on est en plein dedans, on n'a pas de fit test, on n'a pas de N95, on nous oblige à travailler en zone rouge sans N95. Les N95 sont uniquement dédiés au personnel de l'urgence et des soins intensifs COVID. Nous, on nous envoie au front sans rien. Et ça, puis j'arrête pas de le dire à la direction, j'étais présente, j'ai fait partie de tous les comités pour le H1N1, puis c'était la priorité. Puis on l'a pas eu, cette pandémie-là. Puis là, on l'a, puis vous nous équipez pas.
Il y a encore des problèmes d'équipement, hein, c'est ça?
Ben nous, je l'ai dit, la direction est très fâchée après moi parce que j'ai osé dire qu'on a 314 000 masques N95 dans un entrepôt qui dorment. Là, on me fait la leçon. Ah, ben là, il va peut-être falloir qu'on en partage avec d'autres qui n'ont pas. Ben, j'espère que vous allez partager avec ceux qui n'ont pas plutôt que laisser dormir ça dans les entrepôts. On me fait des reproches parce que j'ai osé dire le chiffre.
Mais il y a effectivement des masques en ce moment qui seraient nécessaires dans les hôpitaux puis qu'on garde dans les entrepôts, c'est ça que vous me dites?
Les règles de l'INSPQ disent qu'on n'a pas besoin de N95 en zone rouge, sauf si les patients sont intubés. Là, je vous fais ça court un langage simple. Là. Mais tous ceux qui sont en zone rouge là, avec les patients COVID, là, on a le masque de procédure. Puis j'aurais dit, je dis, est-ce que vous regardez les nouvelles? Regardez ce qui se passe aux États-Unis, regardez en Europe, regardez comment les gens sont équipés pour faire face à la COVID. J'ai dit, nous autres, vous nous envoyez à la guerre avec encore des petits masques bleus, puis vous vous demandez pourquoi qu'on se contamine tout le monde. Ben, c'est facile. Ouais. Donnez-nous l'équipement nécessaire. Ça a l'air j'ai offert un projet pilote à l'employeur dans la zone rouge qui ont fermé précipitamment. Là. J'ai dit, on peut-tu faire un projet pilote, donnez-nous des N95, puis on regardera, on se contamine-tu moins quand on est bien équipé. Mais ça a été refusé. Ils nous proposent une étude qui vient d'une université ontarienne, mais c'est très vague, là, on n'a pas de détails. Nous, on demande, donnez-nous-les plutôt que les laisser dormir dans les entrepôts.
Je voyais qu'à l'Hôtel Dieu de Lévis, là, c'est des masques P100, là, les fameux masques utilisés dans les usines de peinture qui sont utilisés là, depuis quelques mois d'ailleurs là, pour les patients atteints de la COVID. Vous, avez-vous ça, des masques de peinture? Ou...
On a le masque de procédure en papier.
C'est juste ça que vous avez?
C'est tout. Ouais. C'est tout ce qu'on a.
Incroyable. Puis on en passe des masques.
Ben
hein?
Oui.
On en passe beaucoup des masques dans les hôpitaux. On va vous aller
dans les hôpitaux, mais dans les CHSLD aussi, là, puis à domicile aussi, là.
Tout à fait.
À domicile, c'est la même affaire, là.
Est-ce que Marjolaine, on va aller à la pause, vous restez avec nous, bien sûr, parce qu'on a beaucoup d'autres questions pour vous et vous témoigner de ce qui se passe. Alors, je pense que tout le monde devrait entendre ce que vous avez à dire, là. Et passer l'information à ceux qui sont encore réfractaires ou qui doutent, là. Tout le temps, là, qui m'écrivent puis qui disent « Ouais, encore la COVID un matin, hein? Puis parle-nous donc d'autres choses. » Oh, mon Dieu. Écrivez-moi pas pour me dire ça, sérieusement. C'est ridicule. C'est ridicule, ce genre de message. On essaie de faire avancer le groupe. On n'est pas là pour le retarder. Hein? C'est ça l'idée. Marjolaine Aubé est présidente du syndicat des travailleuses et travailleurs du 6 de Laval. Entre autres, est en contact avec la direction de la santé de la Cité de la Santé. Il y a 25 % de ses membres qui sont en arrêt de travail, pour vous donner une idée, là. Elle représente du personnel paratechnique, des auxiliaires en soins, des ouvriers spécialisés, du personnel administratif. Tout le monde qui a les deux mains dedans depuis le début, depuis des mois. Il y a des semaines qui nous disent qu'ils sont à bout de souffle. Ils ont peut-être raison. Il faudrait peut-être écouter un peu ce message-là. Puis parce que regardez ce qui se passe. Là, c'est 50 % des chirurgies, des opérations chirurgicales, des rendez-vous qui doivent être annulés. Il va falloir faire, bien sûr, de la place aussi, le fameux délestage, on est dedans. Est-ce que vous avez peur de ne pas être soigné faute de ressources à cause de la COVID? C'est la question que je vous pose. 514-790-9850. Alors, vous avez entendu, on demande aux hôpitaux de fournir au plus tard aujourd'hui le plan de délestage sommaire qui comprend plein d'activités à délester. Là. Donc, ce qu'on leur dit à partir d'aujourd'hui, il faut vraiment là, que vous nous disiez comment vous allez vous y prendre pour rendre disponibles les lits dans les hôpitaux. On veut rendre disponibles 2/3 des lits ciblés COVID d'ici ce vendredi, là, dans 3 jours. On veut rendre disponible 100 % des lits ciblés COVID d'ici vendredi prochain, 17 décembre. Et là, on veut rendre disponibles les surcapacités calculées à 150 %. Ça a l'air bien technique, tout ça. Mais en gros, là, ce que ça veut dire, c'est que il faut faire de la place. Il faut faire de la place pour les cas de COVID, quitte à mettre de côté des patients qui n'ont pas la COVID, qui ont d'autres choses, qu'on considère peut-être moins urgence nationale, parce que là, on est face à une maladie contagieuse, la COVID. C'est un virus, ça se passe facilement. Hein, on le sait, ça fait 9 mois qu'on le dit, là, et qu'on devrait avoir incorporé ça. Et là, ben, il faut faire de la place. Alors, c'est sûr que si vous avez une chirurgie en attente, que vous pouvez encore attendre, ben, on va vous demander d'attendre. C'est ça le concept un peu. C'est malheureux. Paul Brunet est le porte-parole pour le Conseil pour la protection des malades. Bonjour, Paul.
Bonjour, Isabelle.
Je vais vous entendre là-dessus parce que là, protection des malades, c'est remise en cause. Là. Moi, quand j'entends Marjolaine Aubé, ma première invitée, qui est toujours avec nous d'ailleurs, Marjolaine, qui est présidente du syndicat des travailleuses et travailleurs du 6 de Laval, qui nous dit que là, il faut faire de la place, quitte à sortir du monde puis les soigner à la maison. On remet en question beaucoup la façon dont on est soigné au Québec, là.
Oui, puis tu sais, ça se fait, disons, à la dernière minute un peu.
Un peu?
Ces plans-là ne sont pas décidés depuis quelques semaines déjà. Comment ça se fait qu'on n'a pas d'autre alternative pour la centaine de milliers de patients qui attendent pour une chirurgie élective? Est-ce que la seule solution, c'est de tasser tout le monde, quitte à risquer de perdre du monde sur les listes d'attente, comme ça s'est déjà produit au début des années 2000? Je sens que, tu sais, on est pressé, puis je comprends, là, on est dans une crise sanitaire historique, mais depuis la première crise, la première vague, est-ce qu'on n'a pas eu le temps de s'asseoir pour mieux planifier? Est-ce que ce sont des questions financières qui nous empêchent d'offrir des alternatives, comme par exemple, ça s'est fait près de Sacré-Cœur, où on a dit, OK, on va envoyer certains patients en chirurgie élective dans des cliniques médicales spécialisées, c'est autorisé maintenant, il suffit de le faire, passer des contrats avec toutes ces cliniques-là. Les syndicats où ça s'est produit étaient d'accord parce qu'on est débordé. Alors, c'est des gens qui vont se faire opérer dans ces cliniques-là, payés par l'État parce qu'on est débordé. Ça sert à ça. Le projet de loi 33 de 2006 qui l'autorisait. Alors, je veux peut-être qu'en coulisses, Isabelle, on l'a déjà prévu, mais on ne l'a pas entendu dire. Parce que si on continue à accabler la liste, ça va être 150 000 patients là, qui vont entendre. Et inévitablement, malgré qu'il y a un tri qui se fait avec des spécialistes là, sur ces dossiers-là, c'est sûr qu'on finit par perdre du monde parce que l'état de santé des gens, même pour des chirurgies mineures il y a 6 mois, commence à être drôlement importante après ce temps-là.
Paul Brunet, est-ce que vous pourriez expliquer aux gens que ce qui se passe en ce moment, puis c'est généralisé, hein, le cri d'alarme, c'est pas que les syndicats, là, parce qu'il y en a qui m'écrivent là, que c'est les syndicats qui essayent en ce moment d'en profiter pour se négocier des meilleures conventions collectives. Il y en a qui disent que les médecins exagèrent, il y en a que tout le monde exagère, puis que finalement, et qu'on contribue beaucoup, nous, ici, avec un ton alarmiste à faire en sorte que les gens aient peur. Il y a un moment donné, quand tout le monde dit on s'en va dans le mur, ça se peut qu'on s'en aille dans le mur, là, ça se peut que ça soit vrai aussi. Là.
Écoutez,
moi, j'ai de la misère avec ça.
Je sais que je vais me faire dire que je répète, mais tu sais, Isabelle, je l'ai dit au tout début, on est en retard. D'autres juridictions l'ont été aussi en retard. Il y a des places qui le détermoignent. On a commencé un peu tard à prendre la crise de la COVID au sérieux, malgré les avertissements de l'OMS depuis février. Mm. On a commencé à s'aligner vers le mois de mars, avril. Avons-nous dit que les CHSLD et les personnes âgées étaient importantes, mais seulement au mai. En mai, avons-nous systématiquement testé le monde. Encore aujourd'hui, les employés, disons-nous, ont le droit apparemment de refuser de se faire tester. Écoutez, Isabelle, on a une loi sur la santé publique qui force des millions de personnes à se confiner, une loi sur la santé publique qui force la fermeture de centaines de milliers de commerces. Vous allez me dire que cette loi-là ne peut pas forcer respectueusement les syndiqués, le personnel, qui qu'il soit, à se faire tester. Parce qu'on a beau vouloir les faire vacciner, mais il faut qu'on teste les gens. C'est ce que l'OMS dit depuis le mois de janvier dernier. Si tu ne peux pas tester, tu ne sauras pas à quoi tu as affaire. Et encore moins, sauras-tu comment éviter la contamination. Il y avait une PDG à l'hôpital Saint-Jérôme qui admettait elle-même qu'elle avait autorisé les transferts de chaud et de froid du personnel. Non, mais je veux dire, on n'écoute pas. M. Dubé avait quand même un plan au mois d'août. En tout cas, ce plan-là était assez clair. C'était tout ce qu'on n'avait pas fait ou mal fait dans la première vague.
Ouais.
Même ça, c'est pas suivi. Il faut être un peu plus rigoureux. Ouais. Il y a une chef syndicale qui m'a dit, Paul, arrête d'accabler les syndiqués. On est épuisés. Moi, mais j'ai dit, si vous continuez pas à être aussi rigoureux, puis faire attention avec vos habits de protection, puis vos masques, puis éviter que vous rassembliez puis vous contaminiez, vous allez être encore épuisé parce qu'on va perdre encore plus de monde. Il faut que tous ensemble, puis pas juste les syndicats, les patrons, qu'on soit plus rigoureux dans le peu qu'il nous reste de monde. On veut pas les perdre, on veut les garder avec nous autres.
Mais Paul, vous avez entendu Marjolaine Aubé, là? Marjolaine, vous êtes toujours là. Sur la question des masques seulement, les gens réagissent beaucoup là-dessus, là. Parce qu'ils se disent, voyons donc, ils n'ont pas d'équipement nécessaire, ils n'ont pas l'équipement qu'il faut, que ça dort dans des entrepôts, puis que si on en a un nombre suffisant à court terme, qu'on l'utilise, là, puis qu'on s'arrange pour gérer ce qui va être nécessaire dans les prochaines semaines, il y a quelque chose là-dessus là, qui ne marche pas aussi. Il y a l'organisation, mais Marjolaine, là-dessus...
Oui, justement pour les masques, là, définitivement, puis je l'ai dit plusieurs fois, puis je le répète, les études le disent maintenant, là, que c'est aérotransporté. Quand il y a plusieurs personnes dans une pièce qui nous donne l'équipement. Puis pour le dépistage, moi, j'ai été de celle, une des premières, qui exigeait le dépistage systématique de tous les employés et de tous les patients. Alors, je m'étais adressée à l'époque directement à la ministre McCann pour exiger le dépistage, là, parce que dans
Paul
le gros
Brunet,
d'accès à Sainte-Dorothée.
Paul Brunet a raison, par exemple, Marjolaine, là-dessus. Il faut absolument utiliser...
Nous, à Laval, c'est fait, ça. C'est au moins 3 fois par semaine, dès qu'il y a une éclosion. Et puis, c'est parce que ce qu'on a de différent, c'est qu'à Laval, ils ont développé un test salivaire. Donc, tu craches dans un pot. Donc, c'est moins intrusif que l'autre. Donc, moi, si j'en ai qui ne se font pas dépister, c'est extrêmement marginal parce que avec ce test-là, n'importe qui, ça fait pas mal, ça fait rien. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'ils développent ça parce que quand tu te fais tester 3 fois par semaine et que c'est une tige qu'on t'insère dans le nez, ben c'est sûr que ça fait mal. Sauf qu'il y a des tests différents maintenant. Ouais. Mais moi, chez nous, c'est marginal. Les gens, là, se font dépister. Ben, on le vit, hein, okay, parce qu'on le sait, c'est quoi qui se passe.
Paul Brunet, PDG du Conseil pour la protection des malades, sur tout le plan là, qui doit être... Aujourd'hui, on a dit aux hôpitaux, là, aujourd'hui, vous devez nous donner votre plan. Là. C'est quoi votre plan de délestage? Donc, pour vous, c'est clair que c'est un plan qui va être fait beaucoup trop vite et puis où on risque de couper les coins ronds puis d'échapper des gens malades, là, c'est ça?
Isabelle, souvenez-vous que Mme Francaire avait dit au mois de juin, c'est triste qu'on nous a fait vider nos listes de chirurgie élective parce qu'on n'a pas reçu de patients de COVID au nombre où on s'attendait. Fait que, tu sais, il faudrait qu'on soit capable de mesurer ce qu'on a mal mesuré à l'époque au lieu de vider tout ce qui s'appelle lit disponible. Je comprends que c'est important, là, puis je veux dire, on est dans une crise sanitaire majeure, mais être un peu plus à l'écoute de ce que les médecins vont dire au gouvernement, dire, écoute, oui, on a une prévision au niveau des COVID, mais si on abandonne les patients qui, par ailleurs, voient leur état de santé se dégrader puis qu'on en perd, est-ce qu'on est plus avancé à la fin du compte? Je suis pas certain.
Ouais. Merci beaucoup, Paul Brunet. du Conseil pour la protection des malades. On s'arrête ici, très courte pause. Si vous avez des commentaires, entre autres, et surtout une réponse à cette question, je voudrais savoir si vous avez peur de ne pas être soigné faute de ressources à cause de la COVID, à cause du délestage, en fait. Ce délestage COVID risque-t-il de vous coûter votre opération à court terme, votre rendez-vous? Si vous êtes parmi ceux déjà qui ont eu des annulations, il y a beaucoup de gens là, qui m'écrivent là, pour toutes sortes de raisons là, médicales. Il y a même des gens sur des listes d'attente de greffe qui malheureusement se sont fait dire ben, écoutez, du don vivant. Il y a toutes sortes de cas. Sincèrement, je peux vous dire que c'est bien réel ce qu'on vit en ce moment. Là, puis j'aimerais ça être pas alarmiste du tout, puis je pense pas l'être. J'essaie juste de vous donner l'heure juste et de mettre en onde des gens là, qui peuvent témoigner de ce qui se passe sur le terrain. Je pense que c'est important de savoir ce qui se passe vraiment. Moi, ce que j'entends ce matin, je trouve pas que c'est forcément rassurant. Puis c'est pas qu'on nous avait pas prévenus. C'est ça l'affaire. Alors, on vous écoute tout de suite après. Si vous avez des choses à nous dire, 514-790-9850. So this is Christmas. And what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you have fun. The near and the dear ones, the old. Est-ce que vous avez peur de ne pas être soigné à cause du délestage dû à l'augmentation des cas de COVID? Les hôpitaux là, débordent, on le sait, les urgences, les étages, on ne sait plus où trouver les lits. Mais là, les hôpitaux doivent en trouver, ils doivent donner leur plan de délestage aujourd'hui. C'était la date limite, là, au plus tard. On veut que d'ici vendredi, d'ailleurs, le 2/3 des lits hospitaliers ciblés COVID-19 soient rendus disponibles. Puis pour vendredi prochain, 17 décembre, on veut rendre disponible 100% de tous les lits, justement, COVID. Alors ça veut dire qu'il faut vraiment délester, il faut faire de la place. On a Carole qui est avec nous. Bonjour, Carole.
Oui, bonjour. Je suis atteinte d'un cancer stage 3 et je suis en chimiothérapie à Laval, au CIUS. Et lors de mon dernier traitement, on a commencé à parler que, étant donné que probablement les lits seraient que pour la COVID, il manquerait de personnel. Alors donc, les gens qui sont à nos soins, ça serait fermé et on n'aurait plus nos traitements de chimio. Moi, j'étais révoltée de ça. Je me disais, ça se peut pas, c'est inhumain. On peut pas agir de la sorte. De quel droit une personne qui va avoir fêté tout le temps des fêtes, qui va s'être amusée pendant que nous, on peine pour se sortir, pour vivre, et on respecte les règles à la lettre, on n'a pas de droit de vivre parce que moi, je vais mourir si lui prend ma place. J'ai un stage 3 de cancer. J'ai besoin de ce traitement-là. Sinon, je peux compter mes jours. Alors donc, je trouve que les règlements, la façon qu'ils agissent, est comme trop rapide. On devrait avoir un portrait global avant de penser à prendre des mesures. Moi, c'est ce qui je vous jure que ça me fait mal au cœur et je suis très nerveuse depuis vendredi dernier parce que je le sais déjà que ça s'en va vers ça. Et de quel droit? Moi, ma vie, elle vaut tant que celui, et sinon plus, parce que j'ai une tête sur les épaules. Le gars qui s'en va fêter dans le Nord, à Saint-Sauveur, où c'est noir de monde, est-ce qu'il agit intelligemment? J'en doute fort. Ou il y a de graves problèmes. Mais... Et moi, je vais laisser ma vie. Je trouve que c'est d'une tristesse épouvantable. De quel droit on va disposer de ma vie au profit de quelqu'un comme une autre personne? Tu sais, je suis déjà là. Moi, lui, il n'est même pas dans le système. Ouais. Ou elle n'est même pas dans le système. Alors, c'est ça qui, je pense que si les gens qui, comme moi, soient hospitalisés, soit sous des services quelconques, devraient se mettre en train pour essayer de défendre nos droits. On est rendu obligé de faire ça parce que malade comme on est, je peux-tu vous dire que c'est pas d'une gaieté de cœur que je le fais, mais je vais essayer de trouver les forces pour le faire. Je vais revirer le monde à l'envers. J'ai déjà commencé ce matin avec vous, ma chère dame, que j'écoute chaque matin.
Merci,
mais voyez-vous, c'est d'une tristesse et ça m'atteint pas seulement moi, ça atteint toute ma famille. On est assez lucide pour s'apercevoir que je vais partir comme un petit poulet avec le cancer. Je trouve ça. Je pense que c'est sûr que jamais qu'ils font leur possible, mais ils devraient. Depuis le mois de février qu'on se prive nous, mais ils ont eu le temps depuis le mois de février de voir. Ils savaient que les gens n'écoutaient pas déjà au début. Ils n'arrêtaient pas de venir le dire. Ils auraient dû prévoir un système longtemps d'avance pour ne pas pénaliser des gens comme moi et tous ceux qui sont déjà hospitalisés.
Merci beaucoup, Carole. Bon courage. Merci de votre témoignage, Martin. Bonjour.
Bonjour Isabelle, ça va bien?
Oui, on vous écoute, Martin.
Ouais, ben j'écoute les émissions depuis Paul Arcand ce matin, puis mon père est en attente d'opération parce qu'il saigne au lieu d'aller aux toilettes, là, il saigne depuis un an. Puis là, il a été reporté il y a 2 mois, il avait fait son jeûne, son test de COVID, il est arrivé à l'hôpital, puis finalement à l'hôpital, ils ont dit on peut pas vous opérer aujourd'hui à cause du COVID. Puis là, ce matin, il est supposé aller à l'hôpital.
Puis parce qu'il n'y avait pas de place, là. Parce qu'il n'y avait pas de place.
Il n'y avait pas de place. Puis ce matin, il avait rendez-vous à midi. Je ne sais pas s'il va être capable de se faire opérer. Il est allé se faire son test de COVID avant hier. Il était à jeun depuis 48 heures. Fait que c'est un petit peu aberrant. Puis quand tu écoutes le monde qui dit qu'ils font des parties, le monde dans le Nord, c'est récurrent. Là. Tout le monde vient parler de ça depuis ce matin. Là.
Oui, parce
je
que.
Je sais pas que ça. C'est dur à gérer les émotions parce que moi, j'ai des adolescents puis ça se rencontre les fins de semaine. T'sais, mes enfants, ils écoutent, mais t'as tous leurs amis qui font des parties partout. T'as des parents qui acceptent ça. Je trouve ça inacceptable.
Oui, merci. Merci beaucoup. Bon courage avec votre père, Martin. On va lui souhaiter de se faire opérer aujourd'hui. Karen, bonjour. Vous aussi, c'est votre père, hein, Karen?
Exactement, Isabelle, bonjour. Oui, bonjour. Mais regarde, mon papa, il fait de la dialyse, ça fait un petit peu plus d'un an. Lorsqu'il a commencé sa dialyse, sa femme a fait tous les tests, voir s'il était compatible avec lui pour lui donner un rein. Mm-hmm. Tout a été beau pendant 8-9 mois. Ça prend quand même un certain temps, ça, les examens.
Ouais.
Tout était beau, même l'examen psychologique et tout. Rendu proche du mois de mai, on dit, OK, normalement, au mois de mai, on devrait se faire opérer. Tout était en attente. Mais évidemment, à cause de la première vague du COVID, ça a été rapporté. On lui a dit, ben finalement, ça va aller au mois de septembre, votre opération. On attendait, tout était beau. On s'est fait encore appeler. On dit, OK, en septembre, on va vous rappeler. Juste mettez-vous en quarantaine pendant 14 jours lorsque l'opération va avoir lieu. Et tout à coup, un dimanche soir, un des docteurs l'appelle puis lui dit, ben finalement, on ne pourra pas faire votre opération parce qu'on a trouvé une petite fissure, un petit problème avec une veine dans le rein de sa femme. Mais tout était prêt, tout était... S'il n'y avait pas eu de COVID, ils auraient déjà eu leur opération. C'est que, puis c'est pas juste ça. Le pire, c'est que pendant tout ce temps-là, il n'a pas été mis dans la liste d'attente pour un rein. C'est qu'il a perdu un an d'attente. Puis là, il est en attente de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Mais moi, j'écoute votre émission, puis je me dis, est-ce que c'est vraiment la vraie raison, la petite veine qui fonctionne pas très bien, ou c'est rendu que c'est le COVID encore une fois, puis ils ont juste dit non, on fait pas l'opération.
Merci, Karen. Merci de votre témoignage. À vous aussi, bon courage. Il y a tellement d'histoires, là. Puis en même temps, vous êtes très nombreux à m'écrire concernant votre histoire personnelle. Il y a beaucoup, beaucoup de gens là, qui vivent ça, là, qui le vivent déjà, le délestage. Marjolaine Aubé, présidente du syndicat des travailleuses et travailleurs du 6 de Laval. Bon, là, ce délestage est bien réel. Là, vous avez entendu les témoignages de quelques personnes. Il y en a beaucoup là, qui le vivent déjà, là.
Ah, définitivement. Puis ça, c'est malheureux. Tantôt, quand vous avez dit pour quelle raison les gens devraient rester confinés, faire attention, ben c'est pour ça. Oui, il y a le personnel du réseau qui est fatigué, beaucoup en choc post-traumatique, mais à la base, c'est les soins qu'on donne pas, c'est des soins à nos familles.
Ouais.
Tous ces gens-là qui ont pas les soins requis. C'est nos mères, c'est nos pères, c'est nos frères, nos sœurs, nos cousins, nos cousines. Là, il faut faire attention justement pour éviter que ça arrive. Mais avec ce qu'on voit, là, nous, on s'attend au pire. Là, après la période des fêtes, on s'attend à ce que ce soit encore pire que ce qu'on voit présentement. Donc, on est terriblement inquiets et d'imaginer que tu es atteint de cancer puis tu peux pas avoir ton traitement, ça, pour nous, c'est une crève de cœur, là.
Ouais.
C'est notre travail, c'est notre quotidien les gens. Quand tu peux pas les aider, puis, tu sais, c'est pas une guerre syndicale, là. C'est pas pour avoir des meilleures conditions de travail, là. Ça fait longtemps qu'on le dénonce, là.
Ouais,
c'est juste que ça ressort sur la place publique. Là, t'as M. Legault qui nous appelait les anges gardiens. Et il nous appelle plus les anges gardiens, là, hein, parce que là, il est comme forcé de négocier. Il négocie pas. C'est même plus tu sais, la pandémie met au jour ce qu'on vivait déjà.
Ouais, puis je pense que là, c'est pas que les syndicats, c'est tout le monde là, du réseau de la santé.
Ben,
c'est la même chose qui est dite par tout le monde, je pense qu'il faut aussi écouter, on peut pas faire la sourde oreille. Marjolaine Aubé, merci d'avoir pris le temps. Lâchez pas, gardez le moral. On en profite pour saluer toutes les troupes là, qui sont en première ligne sur le terrain, tous ceux qui sont de près ou de loin associés aux services de santé, puis qui sont là pour prêter main forte et prendre soin de nous. Marjolaine Aubé, présidente du syndicat des travailleuses et travailleurs du 6 de Laval. On s'arrête ici, mais tout de suite après la pause, je vais parler avec le docteur Hugo Vien, qui est à l'hôpital du Haut-Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu, où effectivement, il y a diminution là aussi des activités. Avec nous, le docteur Hugo Vien, orthopédiste à l'hôpital du Haut-Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est également l'ex-président de l'Association médicale du Québec. Bonjour, docteur Vien.
Bonjour, Isabelle.
Donc, chez vous aussi, là, délestage?
Oui, en fait, j'allais aux nouvelles ce matin, juste avant de vous parler, puis effectivement, une consigne qui s'en vient, là, qui va être annoncée bientôt avec une diminution de 50% des activités chirurgicales à l'hôpital ici en vue d'une possible augmentation des cas à l'hôpital.
Qu'est-ce que ça veut dire pour vos patients à vous, docteur Vien?
Bien, évidemment, c'est un peu ce qui se reproduit du printemps, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients des chirurgies électives qui sont en attente, qui vont recommencer un stress, à savoir quand est-ce que je vais être opéré, quand est-ce que je vais pouvoir avoir diminution de la douleur puis de l'évolution de ma condition. Évidemment, en orthopédie, la plupart du temps, pour nous, ce que ça implique, c'est des difficultés fonctionnelles, c'est de passer encore une partie de l'hiver à avoir de la difficulté à marcher, sortir, pelleter. Mais pour d'autres patients qui ont des conditions des fois un peu plus graves, ça peut être plus inquiétant. On parle évidemment de cancer et d'autres conditions qui sont aussi très limitantes, mais qui rajoutent un stress de plus sur est-ce que ma condition va s'empirer dans les prochains mois si je ne suis pas opéré rapidement. C'est certain que c'est un stress de plus qu'on rajoute à tout le monde à la pandémie.
C'est sûr qu'avec le système de santé qu'on a au Québec depuis plusieurs années, la pression sur le système est toujours très forte par moment et surtout comme ça en fin d'année, début d'année qui s'en vient, 21. C'est pas la première fois qu'on entend parler de ça, du délestage, mais est-ce que vous diriez que ce genre d'opération délestage, ça serait pas mal comme une des plus importantes qu'on va avoir à vivre, avec laquelle on va avoir à vivre?
Dans la présente pandémie?
En général, de ce que vous en avez
on
vu?
On n'a jamais vu ça de mémoire d'homme, là, c'est sûr. Au niveau du système de santé, tout le monde a été mobilisé. On a l'impression, évidemment, dans la vie quotidienne, je parlais avec ma femme qui est gynéco-obstétricienne, on disait, est-ce qu'on retourne, est-ce qu'on devrait suggérer ou supporter des mesures qui nous ramènent dans un état où on va être plus agressif sur les mesures, puis qu'on retourne en confinement plus total. Moi, je me disais, confinement, on est déjà pas mal en confinement, puis c'est ça qui est un peu fascinant, c'est qu'on voit quand même les cas monter, malgré l'effort collectif qu'on met tout le monde là, pour contrôler ça, et on est tous un peu surpris, là. Je pense même la communauté scientifique, là, de dire on a des mesures qui sont quand même assez agressives, on est quand même assez disciplinés au Québec malgré tout, mais on voit une augmentation des cas. Mais dans le quotidien, qu'est-ce que ça fait comme différence? Pour nous, honnêtement, là, on va être en famille à 4-5, on va vivre ça différemment cette année. Moi, je suis sûr un peu qu'ils disent qu'on devrait être assez agressif pour laisser passer un peu les fêtes puis éviter là, l'espèce de problématique appréhendée, parce que c'est surprenant qu'on ait tant de cas que ça. Vous vous souvenez, les annonces ministérielles du gouvernement, c'est-à-dire on va se permettre de permettre les rassemblements à Noël, mais d'ici là, on va contrôler et diminuer le plus possible le taux quotidien puis le taux d'hospitalisation pour avoir un creux pour qu'on rende à Noël. C'est logarithmique. Hein, quand on recommence à se multiplier les contacts, là, on va avoir un boom. Si on part déjà avec un taux dans la population assez élevé, mais ça va exploser d'autant plus. On pensait baisser ça avant Noël, et là, c'est le contraire, ça continue de monter. Donc, c'est surprenant, puis c'est vraiment inquiétant. Évidemment, c'est la lourdeur sur le système de santé, puis les contraintes qui est à appréhender, là. Le problème, c'est que si les urgences sont pleines, il n'est pas vrai que ça n'a pas de répercussions sur la santé des gens, parce que on veut pas, on va un peu plus vite. On traite des gens qui sont dans des conditions c'est plus difficile de traiter les gens dans une condition de COVID où les patients sont positifs. Veux pas, il y a des coins qu'on tourne, il y a des patients sur lesquels on pourrait faire un peu plus, pour lesquels on fait moins, par difficulté. T'sais, en cas de réanimation, des patients qui rentrent dans un état un peu plus critique, là, c'est vrai qu'il y a des gens qui seront pas pris de la même façon dans un état, dans un contexte de pandémie où tout le monde peut être positif puis les taux de positivité sont élevés.
Alors, mais ça c'est inquiétant, par exemple, docteur Vien, parce qu'on se souvient. Il y a une couple de mois, on disait il y a eu cette directive aux ambulanciers de ne plus faire de réanimation là, dans Montréal, à Laval. Là, les gens, faut-tu être inquiète de dire, ben là, j'appelle l'ambulancier, mais si jamais j'ai un vrai problème, ça se peut qu'il ne me réanime pas. Vous voyez jusqu'où ça peut aller, là? Je veux dire, l'inquiétude est réelle.
Oui, mais on est très performant quand on a à agir vite, mais là, toutes nos mesures sont ralenties. Donc, dans les moments où le temps compte ou les secondes comptent, dans un contexte d'urgence, il faut penser, imaginez les gens qui rentrent avec un traumatisme automobile, une chute d'un toit, un infarctus. les mesures, là, c'est d'habitude, ça va vite, hein. C'est scoop and run, on ramasse, on transfère dans la civière, ça se passe, c'est fulgurant la vitesse à laquelle ça se passe. Mais là, avec toutes les mesures, tout le monde doit s'habiller, les masques, tout ça, c'est des minutes qu'on rajoute, puis c'est potentiellement quelqu'un qui survit, puis quelqu'un qui ne survit pas, la différence. Et ça, c'est majeur, c'est ce qu'on vit, là, c'est la lourdeur, puis c'est ce qui rajoute au stress quotidien dans les hôpitaux que les gens ne voient pas, ne ressentent pas nécessairement. Puis c'est ce que vous ressentez dans les lignes ouvertes, j'écoutais vos invités là, tout à l'heure. C'est cette tension-là qui est présente, qui est palpable, qui amène pas seulement un épuisement au niveau des heures puis du travail physique qu'on fait, mais psychologiquement, c'est lourd. Porter le masque à longueur de journée, les lunettes, on change, ou ça le réveille, on perd nos lunettes. C'est lourd et c'est pénible pour tout le monde.
Merci beaucoup, Dr. Hugo Vien, orthopédiste à l'hôpital du Haut-Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. On va s'arrêter ici, il y a les nouvelles, et puis après, bon, on va discuter de votre panier d'épicerie, combien ça risque de vous coûter.